Bien, bonjour tout le monde. Ça fait du bien de voir une belle grande assemblée comme ça. Hein? Mais si vous avez remarqué, les murs commencent à rapetisser. Fait que moi, je vous encourage à aller devant notre Sauveur chaque jour, puis intercéder que Dieu nous montre une solution. On sait qu'on a un projet de construction, mais ça coûte cher, fait que Dieu est capable. Cette bâtisse-là, il nous l'a donnée, là, littéralement. Il est capable de nous en donner un autre. Puis, une autre chose. Le dernier chant qu'on a chanté, là, j'espère que c'est toute votre histoire. Puis, si c'est pas votre histoire, là, bien, venez nous voir. Ou allez voir quelqu'un alentour de vous, là, qui vous raconte comment ça c'est devenu leur histoire et comment ça peut devenir votre histoire aussi. Mais avant d'aller dans le message ce matin, on va se courber. Père éternel, merci encore une fois que tu m'as accueilli, que c'est devenu mon histoire. Mais en fin de compte, c'est ton histoire à toi que tu m'as rentré dans ton histoire. Et je te remercie, Seigneur, parce que sans toi, là, je ne comprenais absolument rien à la vie, à la mort, à tout ce qui se passe. Mais tu as envoyé un de tes serviteurs chez moi, accompagné du Saint-Esprit qui m'a éclairé. Et ce matin, Seigneur, on va rouvrir ta parole encore une fois. Et je ne cesse de te redire que j'ai absolument besoin de ton assistance, que ce soit toi qui sois en avant de moi, qu'on ne m'entende pas parler, mais que parce que c'est ta parole à toi et moi je suis un seulement que ton serviteur, Seigneur. On se remet en tes mains. Amen. Mais je ne sais pas si vous autres, comme ceux-là, que là je m'adresse à ceux que c'est leur histoire. Si vous autres, là, vous vous souvenez des premiers temps de votre vie chrétienne. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se passer tout le temps pareil, là. Quelqu'un qui a été élevé dans une famille chrétienne ne peut pas avoir la même expérience. Les premiers temps que vous avez fréquenté une église évangélique. Je vous demande ça là, parce que je sais que plusieurs d'entre nous, là, le début de notre vie chrétienne, ça ne date pas d'hier. Moi, à l'automne, ça va faire 45 ans. Fait que ça veut dire que ça ne me rajeunit pas. Mais en tout cas, pour moi, là, ce que je me souviens, ma mémoire commence à partir. Mais ces événements-là, là, c'est encore frais dans ma mémoire. Puis ce que je me souviens, c'est que j'étais pendu aux lèvres de ceux qui m'enseignaient. Je buvais, on pourrait dire que je gobais tout ce qu'ils me disaient. Parce qu'après tout, ils m'avaient emmené dans la vérité, donc pour moi, c'était la vérité qui m'apprenait. J'étais tellement impressionné par tout ce que j'apprenais, parce que tout ça, c'était complètement nouveau pour moi. Et je ne peux pas dire que c'était exagéré de dire que j'étais émerveillé de tout ce que j'entendais. Et en plus, on avait le privilège d'avoir, dans l'assemblée où je fréquentais, de très bons enseignants. En tout cas, pour moi, je les trouvais bons. Je ne sais pas si je les réécoutais aujourd'hui, si ce serait la même chose, mais... Mais il y en avait un en particulier, là, qui m'impressionnait beaucoup. Je dirais qu'il m'impressionnait plus que les autres. Je pourrais dire que c'était notre Apollos à nous. Mais quelques années plus tard, celui qui avait fondé l'église que je fréquentais et qui lui-même était un missionnaire a été appelé dans une autre mission. Et il y a plusieurs de ceux qui nous enseignaient aussi, qui étaient en formation, qui ont été appelés à œuvrer dans d'autres églises. Pour moi, c'est un peu comme si Dieu nous avait laissés orphelins. Et là, pendant près de 4 ans, nous avons été sans ouvriers d'expérience, Et lorsque Dieu a finalement pourvu un ouvrier pour l'Église, cet homme-là a été accueilli comme un sauveur, on pourrait dire. Mais en y réfléchissant bien, je crois que Dieu n'avait pas permis le départ de ceux qui nous enseignaient pour rien. Dieu avait une leçon bien importante, c'est-à-dire à nous enseigner, à nous qui étaient des jeunes chrétiens, pour la plupart. Puisque, comme je disais tantôt, il y avait parmi ces enseignants-là des très bons enseignants, des enseignants, puis il y avait des évangélistes aussi. Et là, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, il m'impressionnait tellement que j'avais tendance à les mettre sur un piédestal. On pourrait dire à les élever à la place du maître. Et je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous autres, lorsque vous étiez jeunes chrétiens, mais c'est un peu la même chose qui s'était passée à l'Église de Corinthe. Puisque, comme on a vu, c'était l'apôtre Paul qui avait fondé l'Église, et il avait été assisté par Apollos, il avait été assisté par quelques-uns aussi, pour l'édification de l'Église. Et parce que c'était une jeune Église aussi, une Église qui commençait avec beaucoup de jeunes convertis, il s'était formé au sein de l'Église certains regroupements qui ne marchaient pas nécessairement en accord avec l'Évangile. Et ces regroupements ont fini par causer des divisions. Et c'est pour cette raison que Paul va consacrer une partie de sa lettre à leur adresser, qu'il va leur adresser afin de redresser un peu la situation. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager ensemble en regardant les corrections, pour dire, que Paul veut apporter sur la manière de penser, sur la manière d'agir des chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 6, et aussi de regarder si nous aussi nous n'aurions pas quelques corrections à apporter sur notre manière de penser et de voir les choses. On va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Et on lit au verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien. » Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et on peut dire que la première chose que Paul veut corriger, ou la première correction que Paul a voulu apporter aux chrétiens de Corinthe, c'est un peu sur leur manière d'agir. C'est qu'ils devraient considérer ceux qui travaillaient parmi eux comme de simples serviteurs. Et comme on a déjà vu, la raison pour laquelle il leur mentionne ça, c'est que les chrétiens de Corinthe avaient tendance, un peu comme moi j'avais tendance dans les premiers temps, à élever certains ouvriers qui travaillaient parmi eux au rang des maîtres. je les considérais quasiment mieux que le Seigneur Jésus. Puis, ceux qui étaient considérés par certains, ils étaient considérés encore plus que les autres. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui étaient dénigrés. Et comme on a déjà vu l'apôtre Paul, il y avait Pierre, puis Apollos aussi, qui étaient devenus, malgré eux, on pourrait dire, sans le savoir, des chefs de groupe, des maîtres, en quelque sorte, pour les chrétiens de Corinthe. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, que Paul, il veut corriger la situation. Là. Et si Paul commence sa phrase, comme on a vu tantôt, par un « ainsi », c'est parce qu'il veut faire suite à ce qu'il avait dit déjà au chapitre 3. Après avoir dit aux chrétiens de Corinthe de ne pas mettre la gloire dans les hommes, puisque ce ne sont pas eux qui sont les maîtres. Après leur avoir démontré, on pourrait dire, l'absurdité de leur attachement excessif à des personnes qui avaient été envoyées là pour servir Christ, et aussi en leur rappelant que le vrai rôle de ceux qui travaillent à la construction de l'Église est tout simplement un rôle de serviteur. Eh bien, Paul veut maintenant qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que leur maître, c'est vraiment le Seigneur Jésus, et non quelqu'un qui travaille parmi eux. Et c'est ce que Paul va leur rappeler aussi au verset 1, de ne pas les considérer comme des maîtres, mais plutôt comme des serviteurs du maître. Et comme il le mentionne, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs. Mais dans un certain sens, là, nous sommes tous les chrétiens, nous sommes tous des serviteurs de Christ, puisque tous nous sommes appelés à le servir d'une manière ou d'une autre. Mais en parlant aux chrétiens de Corinthe et en leur disant qu'on nous regarde, Paul avait sans doute en tête tous ses collaborateurs qui étaient avec lui à Corinthe et qui travaillaient à l'édification de l'Église, un peu comme Apollos, Timothée, Pierre peut-être à l'occasion, s'y allait, et probablement aussi un certain dénommé Sosthène qui est mentionné au chapitre 1, qui était sans doute un des membres de l'Église ou un des dirigeants de l'Église, puis probablement aussi tous ceux qui, localement, s'impliquaient dans l'édification de l'Église. Les anciens, peut-être, s'il y en avait à ce moment-là, on ne sait pas. Donc, c'est pour cette raison que Paul va leur rappeler qu'on nous regarde comme des serviteurs. Mais à quel genre de serviteur Paul fait-il allusion ici? Eh bien, il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par « serviteur » dans nos versions. Et par exemple, dans Acte 10, le mot est employé pour désigner un serviteur de maison. Là, il va servir aux tables. Puis, il y a des mots, des fois, qui sont un peu synonymes aussi. Là. Dans Matthieu 22, 13, c'est un mot qui est bien connu, c'est « diakonos », qui peut être traduit par « diac », et qui peut être traduit aussi par « serviteur ». Ici, on en a des diacs. C'est une personne qui est sous l'autorité d'un autre ou une personne qui remplit une fonction de service. Dans Matthieu 13, 27, le mot qui est employé, c'est « doulos », qui désigne un esclave, une personne qui appartient à un autre, qui n'a aucun droit. Puis dans notre passage, le mot qui est employé ici, c'est « hyperétès », qui désigne une personne qui occupe une position inférieure, subalterne. On pourrait dire un aide. Et là, Paul mentionne que lui et ses compagnons jouent ce rôle de serviteur, de subalterne, ce qui est tout le contraire de celui qui est en autorité. Il travaille sur celui, en dessous de celui qui est en autorité, sous ses ordres. Et dans tous les cas, dans le cas qui nous occupe, le maître, celui qui a autorité, c'est Christ. Et ceux qui s'engagent à servir le Seigneur, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, nous sommes tous des serviteurs de Christ. Nous sommes tous des subalternes. On est tous des subordonnés. Ce ne sont pas eux qui dirigent, ce ne sont pas nous qui dirigent, mais on doit suivre les ordres de notre Seigneur. Et pour servir dans l'Église, il y a plusieurs genres de serviteurs et aussi plusieurs domaines qu'on peut servir. On a déjà vu dans 1 Corinthiens 12 les dons. C'est tous des domaines ça, qu'on peut servir. Mais ici, Paul, en plus de mentionner aux chrétiens de Corinthe, de les regarder comme des serviteurs, il va leur mentionner aussi de les regarder comme des dispensateurs du mystère de Dieu. Et chez les anciens, les dispensateurs, c'est en quelque sorte un intendant qui suit les ordres de quelqu'un d'autre, qui il pourrait désigner autant un esclave qu'un homme libre, mais il est au service du maître. Puis le maître, on pourrait dire, lui remet la direction de sa maison ou de son affaire. Puis en particulier, il lui donne l'autorité de distribuer des tâches. On pourrait dire, dans Genèse 24, Abraham a confié à son intendant le mandat d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Dans Genèse 39, Joseph, qui était devenu esclave en Égypte, est devenu aussi l'intendant de Potiphar. Et il avait une grande responsabilité dans sa maison. Mais il était un subordonné. Il avait reçu de son maître l'autorité d'agir en son nom. Mais ici, il désigne le prédicateur comme un administrateur d'une vérité qui n'est pas la sienne. C'est la vérité que son maître lui a désigné de transmettre. Et Pierre, dans sa première lettre, dit à ses lecteurs qu'ils sont les dispensateurs de la grâce de Dieu. Et là, Paul continue en disant qu'en tant que dispensateur, il distribue les mystères de Dieu. Et lorsqu'on parle de mystères dans la Bible, ça n'a rien à voir avec, avec les religions à mystères qu'il y avait dans ce temps-là, puis qu'il y avait simplement que les initiés qui pouvaient entrer en contact avec les divinités. Dans le Nouveau Testament, le mot mystère peut exprimer une action qui est tenue secrète jusqu'à l'heure où il a été fixé de révéler par Dieu. Dans Romains 16, 25 et 26, il nous donne une bonne explication. Il nous dit, « Et celui qui peut affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes. » D'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'ils obéissent à la foi. On peut dire que ce sont des mystères qui, une fois qu'ils ont été révélés, ne doivent plus être cachés. Il faut qu'ils soient répandus dans le monde entier. Et Colossiens 1:26 nous dit aussi que le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voyez-vous que le privilège que nous avons, un mystère qui avait été caché de tous les temps, de tous les âges, qui a été révélé à qui? À nous, à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse des mystères parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et en gros, ce mystère caché de tous les temps que Paul et ses compagnons étaient chargés de révéler, c'était le fait que maintenant, païens et juifs, c'est qui ça les païens? C'était nous, les non-juifs. Païens et juifs étaient désormais unis dans l'Église par le moyen de l'Évangile. Il n'y a plus de distinction. On est unis maintenant en Christ. Et au verset 2, Paul nous dit ce qu'on demande aux dispensateurs. Et justement, ce qu'on demande aux dispensateurs, ce n'est pas qu'ils soient éloquents, captivants, profonds, distrayants ou amusants, mais si c'est le cas, c'est un plus. Mais tout simplement qu'ils soient trouvés fidèles. C'est la seule demande que Dieu, là, qui trouve vraiment essentielle, qu'il soit trouvé fidèle. Qu'on puisse lui faire confiance. Si on lui confie une tâche à accomplir, on sait qu'il va l'accomplir fidèlement. Il ne partira pas dans une autre tâche. Il va la finir. Et ce qu'on recherche aussi chez un intendant, c'est cette fidélité à son maître. Surtout pour ce qui est de l'accomplissement de sa mission. Et le serviteur fidèle, c'est celui sur qui le Seigneur peut compter, puis qu'un jour, de qui Jésus va pouvoir dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et il y a plusieurs domaines dans lesquels un serviteur pourrait être trouvé fidèle. Mais dans ce cas précis, là, ce qui nous intéresse, c'est dans la distribution des mystères de Dieu qui sera trouvé fidèle ou pas. C'est à prêcher la parole dans toute sa vérité. Eh bien, ce que Paul demande aux chrétiens de Corinthe de considérer, lui et ses compagnons, d'œuvre comme des simples serviteurs. Ce qu'il nous demande de considérer, mettons, si je regarde dans la salle, Gaétan, André, je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes des simples serviteurs. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, de ne pas les reconnaître pour qu'est-ce qu'ils font, là. Ça ne veut pas dire de commencer à les dénigrer. « Ah, vous autres, vous êtes un que ça, là, tu sais. » Non, non. Certains ont consacré leur vie pour le Seigneur Jésus. Il y en a même qui l'ont donné leur vie. Ils l'ont payé de leur vie, leur service au Seigneur Jésus. Et après tout, ce n'est pas les serviteurs de n'importe qui. C'est les serviteurs de notre Sauveur, c'est les serviteurs de Dieu. Et c'est tout un honneur puis tout un privilège d'être au service de celui qui lui-même a délaissé sa gloire au ciel, qui est descendu partager notre misère, puis a payé de sa vie la dette de nos péchés. Même que Paul, dans 1 Thessaloniciens 5:12, demande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux. Le but, on pourrait dire, de la mission de Paul, c'est de faire connaître les mystères de Dieu, la révélation de Dieu pour tous les hommes. Mais quelle est notre mission à nous aujourd'hui en tant que serviteurs? Parce que nous sommes tous ces serviteurs. Elle est la même, la mission n'a pas changé. Mais nous n'avons pas de nouveaux mystères à révéler, par exemple. Tout a été mis en lumière par le sacrifice de Christ. Tout a été transcrit dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on doit annoncer. Pas des nouveaux mystères, pas des nouvelles révélations. Il n'y en a pas. Mais nous devons demeurer fidèles dans la manière, par exemple, de distribuer ces mystères déjà révélés à ceux qui n'ont pas entendu. Puis même à ceux qui les avaient déjà entendus, Pierre disait à ses lecteurs, qui ne cessait de leur répéter les mêmes choses. Parce qu'il faut dire qu'on est dur d'entendement. On a besoin de se le faire répéter souvent. Et comme Paul et tous ceux qui travaillaient fidèlement à répandre l'Évangile, nous aussi, nous sommes au service du Maître, nous sommes ses serviteurs. Et en fin de compte, ce que Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de Corinthe, c'est que c'est Christ qui devait être élevé, glorifié, et non ses serviteurs. Mais il y a une deuxième correction aussi que Paul apporte à la manière d'agir des chrétiens de Corinthe, c'est au sujet de leur évaluation, ou on pourrait dire au sujet de leur jugement. Au verset 3, Paul va maintenant s'efforcer de leur faire comprendre une autre erreur dans laquelle ils sont tombés. Et leur erreur consistait à se définir en tant que juge envers les serviteurs de Christ, et en particulier de Paul. Et selon le contexte, c'est-à-dire les contextes, juger, ça peut signifier sonder, questionner, évaluer, examiner. Et dans la Bible, le terme employé signifie prononcer une sentence, un jugement. Et le jugement des Corinthiens envers Paul portait sur son travail, sur sa fidélité, sur sa forme aussi de prédication. Parce que Paul, selon ce qu'on peut voir à travers ses lettres, selon ce qu'on peut voir à travers l'Acte des apôtres aussi, il ne se distinguait pas nécessairement par son éloquence par rapport à Apollos, mettons, ni par sa capacité de faire vibrer son auditoire. Et là, il va leur faire voir que c'est leur orgueil qui se retourne à la racine de toute cette attitude. Et là, il leur dit qu'il importait peu d'être jugé par eux ou par un tribunal humain. Il était devant son maître, puis c'était son maître qui était responsable. L'intendant n'a pas à se soucier du jugement des autres. C'est de son maître qui reçoit ses ordres. C'est de son maître. Mais on a tendance, nous, en tant qu'êtres humains, à vouloir mettre notre grain de sel. On connaît ça beaucoup plus. On dit, bien, comment ça se fait, ça, que lui est là? C'était pas à eux de juger là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucunement reçu le mandat de la part de Dieu, et qui n'avait pas non plus les compétences pour le juger. C'est pourquoi Paul affirme qu'un tribunal humain n'est pas en mesure de le juger. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'il doit être jugé. Sur son travail, sur sa fidélité à emmener la spiritualité. Mais les chrétiens, les Corinthiens, c'est-à-dire dans leur orgueil, s'estimaient à la hauteur d'évaluer la qualité du travail de Paul. Mais pour Paul, lui, sa conscience ne révélait aucune infidélité. Mais ce n'est pas pour ça, comme il l'a dit, qu'il s'estimait justifié. Même qu'au verset 3, il dit qu'il ne se juge même pas lui-même. Il ne se fiait même pas à lui-même pour établir un jugement sur son travail. Mais là, en regardant ça, il ne se juge pas lui-même. Pourtant, dans la lettre, dans la même lettre, au chapitre 11, au verset 31, il dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais là, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il se contredit? Puis en plus, c'est dans la même lettre, là. Mais il est important de comprendre ici que ce sont deux situations différentes, puis deux mots différents qui sont employés ici. Dans le chapitre 11, Paul souligne la nécessité de s'examiner soi-même, d'examiner notre vie, et même jusqu'à aller à se discipliner en présence de Dieu afin que son jugement ne tombe pas sur nous. Mais dans ce passage-ci, il affirme son indépendance par rapport à ceux qui se vantaient d'apporter des jugements sur son autorité et son ministère. Paul leur dit qu'ils n'ont aucune juridiction en cette matière, mais que lui-même n'ose même pas s'évaluer parce qu'il ne connaît même pas tout ce qui rentre en ligne de compte dans ce jugement-là. Et si Paul ne se sent pas coupable, c'est pas parce qu'il voulait dire qu'il était sans péché, là, qu'il était parfait, qu'il était parfaitement juste. Non, parce qu'il dit lui-même au verset 4 que ce n'est pas pour ça qu'il est justifié. Mais sa conscience ne lui révélait aucune infidélité. Il dit que celui qui juge, c'est le Seigneur, c'est son maître qui va le juger. Et seul Christ est en mesure de porter un jugement dans ce domaine, parce que lui connaît toutes choses, il connaît nos pensées, il connaît nos intentions. Nous, on ne connaît pas l'intention des autres. Des fois, c'est dur, c'est même difficile à savoir nos propres motivations, des fois. Mais lui connaît tout. Et au verset 5, il dit, « C'est pourquoi, ou à cause de ça, ne jugez de rien avant le temps. » Et encore là, ne juger de rien peut sembler, on peut dire, en contradiction avec de nombreux textes où Paul invite les chrétiens à exercer le discernement. Mais il est nécessaire de faire une distinction entre le jugement, l'évaluation, le jugement qui recherche à avoir clair et apprécier une situation ou un acte, et le jugement, accusation, qui pourrait condamner ou non une action. Et là, la raison pour laquelle Paul dit que les chrétiens de Corinthe ne sont pas aptes à le juger, lui et ses compagnons de service, c'est que ce jugement est porté sur sa fidélité. Et on a vu tantôt que ce qu'on demande d'un administrateur, ce sera sa fidélité à faire connaître les mystères de Dieu. À proclamer les mystères de Dieu qui ne sont pas autre chose que la réunion des Juifs et des païens en un seul cœur, c'est-à-dire l'Évangile. C'est de proclamer la parole de Dieu dans tout son ensemble et dans toute son intégrité, dans toute sa vérité. Et c'est là-dessus que le jugement sera fait. Est-ce que Paul a été trouvé fidèle par Dieu dans ce domaine-là? C'est Dieu qui va le déterminer. Est-ce qu'Apollos a été trouvé fidèle? C'est Dieu qui va le déterminer. Et là-dessus, est-ce que je vais être trouvé fidèle? Encore là, c'est Dieu qui va le déterminer si j'ai été fidèle ou pas. C'est là-dessus qu'il va se faire notre évaluation. Et il précise jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est lui qui jugera et qui va mettre en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de chacun de nos cœurs. Et là, Dieu a désigné un jour, qu'on ne connaît pas encore, mais un jour se fera notre évaluation devant le tribunal de Christ. Et que chacun de Dieu recevra quoi? La louange, la récompense. Ce ne sera pas un jugement punitif, là. Mais toutes nos œuvres vont être nos œuvres en Christ. Nos œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous et vont être évaluées. Et là, on va avoir des récompenses, des louanges. J'ai hâte d'arriver, moi. Hein? Même si peut-être je n'aurai pas si de récompense de ça, mais au moins, ça ne sera pas. Je ne m'en vais pas devant un tribunal pour. Non. Viens, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, puis là, voici tes récompenses, que je ne sais pas encore. Mais en tout cas. Mais c'est certain qu'on devrait apprécier tel ou tel serviteur pour les compétences que Dieu. Parce que, humainement parlant, on a tendance, des fois, avoir des préférences. Puis même si Dieu nous dit de les considérer comme de simples serviteurs, on doit quand même les apprécier pour leurs compétences. On doit les apprécier, puis remercier Dieu aussi de les avoir envoyés, puisque dans la même épître, il mentionne que c'est l'Esprit Saint qui distribue les dons comme il le veut. Donc, si chacun de nous, on a des tâches à faire dans l'Église, c'est Dieu qui nous a attribué ces tâches-là. C'est dans ces tâches-là qu'on doit être trouvé fidèle. Mais combien aussi nous devrions être reconnaissants pour tous ces hommes que Dieu a donnés à l'Église et qui ont servi fidèlement depuis le début de l'Église. Il y a certains hommes qu'on ne connaît pas, mais qui ont écrit des livres qu'on peut bénéficier aujourd'hui aussi. C'est des serviteurs de Christ. Et puisque c'est sur la fidélité de chacun de Dieu que Dieu jugera le serviteur et non sur ses compétences, Paul nous appelle ici que ce n'est pas nous qui demandons ce travail-là de les juger. C'est lui qui va nous juger. Mais on peut dire qu'à travers ce passage-là qu'on vient de lire, ce que Paul a essayé de nous faire comprendre, comme aux chrétiens de Corinthe, c'est que tous les serviteurs de l'Église sont au service du Maître pour accomplir la tâche que lui a répartie à chacun. Et ces tâches ont tout le temps le même objectif ou le même but, c'est celui d'accomplir la mission que le Seigneur avait confiée à ses disciples. C'est quoi? De faire d'autres disciples. Mais on a déjà vu que faire des disciples, c'est un champ assez grand, ça. C'est pas juste évangéliser, c'est de former, c'est de baptiser. Et nous pouvons être reconnaissants à Christ aussi, qui depuis le début de l'Église a pourvu à ses hommes, ses serviteurs fidèles, afin qu'ils élèvent le Maître et glorifient Dieu. On pourrait dire ces hommes qui ont été très utiles dans l'œuvre et qui seront évalués seulement par le Maître, car seul Christ a cette autorité, a cette connaissance aussi de ce qui se passe dans l'homme, pour le faire afin qu'ils reçoivent leur récompense. Donc, encourageons-nous ce matin à porter notre élévation sur celui qui mérite de recevoir toute notre gloire, toute notre louange, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a tout accompli à notre place. Prenons chacun de nous la place de serviteur qu'il nous a assigné, parce que nous sommes tous des serviteurs. Souvent, on va parler de quelqu'un qui est dans le ministère, dans le service. Oui, il y en a des personnes qui sont désignées, mais nous sommes tous les serviteurs de Christ. Et cherchons aussi quelle place que Dieu m'a donnée dans son corps, dans quelle place il veut que je serve dans son Église. Il ne nous a pas sauvés uniquement. Oui, il nous a sauvés parce qu'il nous aimait, mais il ne nous a pas sauvés uniquement pour « assis-toi là et attends que je revienne te chercher ». Non, il nous a sauvés pour qu'on continue son travail sur la terre. Et en plus de ce que je vous ai demandé tantôt, de prier pour la bâtisse, mais priez chacun de vous pour que le Seigneur vous montre quelle est votre place dans le corps de Christ, quelle est votre place dans l'Église. Père éternel, moi je veux te prier aussi pour cette Église ici. Je sais que cette Église t'appartient. Ça fait longtemps que je te vois lire dans cette Église, que je vois des personnes qui rentrent, que tu as dirigées, que tu vois des serviteurs entrer aussi. Et je te prie vraiment de diriger pour cette Église, pour cette assemblée qui t'appartient, que tu puisses pourvoir à ses besoins tant physiques que spirituels. La bâtisse, oui, aux serviteurs, oui, mais que chacun de nous puisse trouver la place que tu nous as donnée dans ton corps. On veut s'en remettre à toi, Seigneur Jésus. Amen.